Enlever, restaurer, conserver le patrimoine de nos terroirs. Une émission de la Fondation du patrimoine, présentée par Bernard Cassanier et Olivier Seb.
Bonjour Eric.
Bonjour Bernard.
Si vous le voulez, Eric, on va aller faire un petit tour dans un petit château toulousain, le château de Verrières et le Castel Gesta ou Castel Gesta. Donc c'est un édifice qui est situé dans le quartier des Chalets, au 22 avenue de Honoré Serre, ici à Toulouse. Ce château Verrières, où a le charme d'une belle demeure romantique du 19e siècle, et restera à l'abandon durant plus de 10 ans et renaîtra de ses cendres après une histoire particulièrement agitée qui débute en 1860.
Oui, et ce monument du patrimoine toulousain est assez méconnu. L'histoire de la cité, vous l'avez rappelé, il est situé dans le quartier des Chalets, qui était alors le faubourg Arnaud-Bernard, et c'est le vestige d'une manufacture de vitraux parmi les plus importantes de France. Il sera d'ailleurs classé monument historique le 3 octobre 1991.
La chronique historique de cet édifice et de ses péripéties particulières qu'il a subies sont intéressantes à narrer et à connaître de cette manufacture à l'entreprise de négoce, à l'hébergement d'une communauté religieuse, à l'activité d'un lycée professionnel, d'une classe de conservatoire de musique, au service de la police nationale et de la mutuelle des étudiants, au squat, au pillage et la détérioration pour enfin être l'objet d'une escroquerie immobilière. Actuellement, il est réhabilité en appartement de standing.
Alors, je le rappelais tout à l'heure, il y a quelques instants plus tôt, l'aventure heureuse et malheureuse de notre Castel Gesta débute en première intention par la création d'une manufacture de vitraux fondée par le peintre verrier français Louis-Victor Gesta. Louis-Victor Gesta qui est né à Toulouse le 26 septembre 1828, où il est mort le 6 septembre 1894 à l'âge de 66 ans, Bernard.
Il étudie à l'école des Beaux-Arts de Toulouse et grâce à une bourse du Conseil Général de l'époque, il intègre l'école centrale des Arts et Manufactures de Paris. Il devient ainsi l'élève du peintre verrier Ernest Lamy de Nozan. Ce dernier est aussi directeur du télégraphe Chape à Toulouse. Il sera l'introducteur de l'art du vitrail à Toulouse, vitraux de la cathédrale de Saint-Étienne, par exemple, ou de Saint-Pierre et Saint-Paul, et vitraux des fonts baptismaux.
Il va travailler ensuite chez le maître verrier Artigues et rapidement, il va s'installer à son compte en 1849 et fonder un atelier de vitraux boulevard Napoléon, aujourd'hui devenu boulevard de Strasbourg depuis 1873, où il va employer une dizaine d'ouvriers.
Le 22 juin 1859, il épouse Joséphine Marie Nave, avec qui il aura trois garçons qui deviendront à leur tour peintres verriers, Henri-Louis-Victor, Louis et Gabriel. Veuf à 45 ans, Louis-Victor se remarie deux ans après, il a eu vite fait, avec Marie-Louise Delouglière.
Delougla, oui, un nom qui n'est pas facile à prononcer.
Delougla.
Et puis en 1862, Louis-Victor Gesta installe son nouvel atelier sur un terrain appartenant à son beau-père, M. Nave, rue du Faubourg Arnaud-Bernard, actuellement avenue Honoré-Serre. Vous voyez que les rues ont souvent changé de nom à Toulouse. On est toujours dans le quartier des Chalets, au numéro 22, à l'angle de la rue Godolin.
L'installation d'origine est plutôt modeste. Des hangars, un four et deux petites maisons à usage d'habitation, bien sûr, et bien sûr de magasins aussi. Sous le Second Empire, la demande de vitraux est massive.
Et le vitrail a une place à part dans l'histoire de l'art. Il est apparu en France à l'époque carolingienne, du 8e au 10e siècle, et son apogée se situe en période gothique, le temps des cathédrales. En faisant entrer la lumière dans un édifice religieux, il symbolise ainsi la présence divine.
Sous le Second Empire, la demande redevient importante. Vitraux représentant des personnages de l'histoire sainte, entourés de décors géométriques. 150 manufactures produisent du vitrail en France à cette époque-là.
La manufacture de Louis-Victor Gesta compte alors parmi les plus productrices de l'Hexagone. De la moitié du 19e siècle au début du 20e, sa manufacture crée des vitraux pour 8500 églises, selon son dépliant publicitaire. À l'étranger et surtout dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, des centaines de vitraux Gesta sont aujourd'hui inscrits à l'inventaire du patrimoine français. Les vitraux Gesta illustrent et ornent en majorité les édifices religieux, mais on retrouve aussi quelques œuvres profanes, telles que les vitraux de la véranda du casino de Bagnères-de-Luchon.
Le succès de cette entreprise est incontestable. Sa production est prolifique d'ailleurs et résulte du talent et du sens des affaires indéniable du maître verrier Louis-Victor Gesta. Alors il oscille bien sûr entre l'art et l'industrie. Ses vitraux étaient en effet produits en série tout en étant de très bonne qualité. Et cette ambivalence lui vaudra de nombreuses critiques, le cataloguant d'artiste industriel. Et pourtant, Louis-Victor est un artiste à part entière.
Un événement important à signaler, le 8 mars 1867, date où l'archevêque de Toulouse, celui de l'époque, Florian Després, visite la manufacture où se trouve le vitrail Saint-Germain de Pibrac, destiné au pape Pie IX du Vatican. Louis-Victor Gesta sera fait chevalier de l'ordre de Saint-Sylvestre par le pape, après donc avoir produit ce magnifique vitrail. Il sera membre actif des cercles catholiques ouvriers. Les œuvres de la manufacture seront primées à de nombreuses expositions, entre autres celle de Marseille, celle de Toulouse, celle de Nîmes, et il a reçu le deuxième prix à l'exposition universelle de 1867 à Paris.
En 1874, Louis-Victor Gesta décida de donner de l'ampleur et de développer son entreprise, qui sera ambassadrice de ses créations. Dans le parc, il fit construire de nouveaux bâtiments de style néo-gothique, le château des Verrières et deux salles d'expression symétriques, l'une dite de la chapelle, et encore, on voit encore la cloche, décorée de peintures murales réalisées par le peintre Joseph Angalière, et l'autre au sud de la salle des illustres, réalisée par son ami, le peintre Bernard Benazé, salle intérieure à celle du Capitole en 1892. On y découvre des vitrines monumentales pour présenter ses œuvres et sa réussite, bien sûr.
Il faut noter que l'esprit romantique du château provient du mélange emprunté au XVe et au XVIe siècle à l'architecture religieuse, avec des tours, des balcons dentelés, des fenêtres en ogive, de la ferronnerie d'art et des gargouilles. Le monogramme du peintre verrier Louis-Victor Gesta est visible sur le linteau de la porte de la tour. Cet édifice néo-gothique répond à trois fonctions: une manufacture qui employait une centaine d'ouvriers, un bâtiment de réception et un logis.
Un parc clos par une belle enceinte fortifiée entourait ses bâtiments. Le Castel Gesta est le témoin de l'esprit romantique du 19e siècle, émanant de la nostalgie des temps passés, médiévaux et renaissance.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que devient le château des Verrières après le décès du maître des lieux? Eh bien en 1890, Louis-Victor Gesta avait cessé son activité, il était en proie à des difficultés financières, il doit se séparer de ses collections et même du château. Il s'éteint le 6 septembre 1894, ses trois héritiers, eux-mêmes peintres verriers, ne s'entendent pas. De ce fait, le château est vendu, les biens immobiliers sont dispersés, c'est le début de la déchéance qui s'amorce et le château passe ainsi aux mains de différents propriétaires.
Et oui, en 1895, le maire de Toulouse, Honoré Serre, fit procéder à l'alignement de la rue du Faubourg Arnoux-Bernard, qui portera plus tard son nom, Honoré Serre. En 1925, cette rue sera dénommée tour à tour rue du Faubourg Arnaud-Bernard en 1806, avenue de Paris en 1896, avenue Honoré-Serre en 1925.
Le 2 juillet 1911, le bien devient la propriété de Bernard Borde, un négociant toulousain. Les vitraux sont déposés pour les protéger.
À partir de 1937, l'édifice devient la tribu des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. Elles hébergeront pendant la Seconde Guerre mondiale des familles juives et réfugiées du nord de la France. Des tranchées creusées dans le parc serviront à abriter les riverains dans le cadre de la défense passive. Un centre d'apprentissage de couture fut créé pour des jeunes filles, sans emploi bien sûr. Les vitraux sont déposés définitivement. Les peintures sont revêtues d'un badigeon ordinaire.
Et en 1956, les sœurs vendent le château à l'État pour devenir un lycée d'enseignement professionnel. Aujourd'hui, lycée Hélène Boucher, rue Lucien Laforgue, quartier Compense-Caffarelli. Le bâtiment sera équipé d'escaliers extérieurs et de rampes de fer pour la sécurité.
Le 7 mai 1987, la mairie de la ville de Toulouse fait son acquisition et y installe la classe d'orgue du Conservatoire supérieur national de musique sous la direction de l'illustre Xavier Darras, une école privée, l'European University, réside au premier étage.
Et puis en 1992, à la mort de Xavier Darras, la classe d'orgue quitta le château. Les locaux furent victimes d'un incendie dans la salle des illustres de Bénezet. La mairie autorisa dès lors la police municipale à occuper le site qui devient un lieu d'accueil pour les appelés du contingent effectuant leur service national dans la police.
Le 26 juillet 1989, inscription à l'inventaire des monuments historiques. Le 3 octobre 1991, classement aux monuments historiques. Ensuite, propriété du SMESO, Société Mutuelle Étudiante du Sud-Ouest.
Et en 2001, la mutuelle vend les locaux à un promoteur. La ville de Toulouse achète une petite partie du parc pour en faire un petit jardin public. Aujourd'hui, c'est le jardin partagé du Verrier, situé au 8 rue Godolin.
Depuis 2004, les verrières sont au cœur d'une escroquerie sur le patrimoine historique. Un architecte bordelais proposer ce monument à des clients dans le cadre d'une défiscalisation. Or, les travaux n'ont jamais eu lieu et l'argent mobilisé pour l'acquisition de ces tableaux, de ces vitraux a disparu.
Durant cette période, le château a subi beaucoup de dommages, des squats, des pillages. Depuis 2014, cet édifice fait l'objet d'une campagne de restauration, d'abord extérieure. Aujourd'hui, le lieu est transformé en résidence de luxe, comprenant 6 appartements. Les peintures sont restaurées, la galerie des illustres reprend vie, durant les journées du patrimoine tout du moins. En attendant, sa façade arrière est visible, toujours du jardin partagé de la 8 rue Godelin.
Oui, l'empreinte la plus importante de Louis-Victor Gesta se trouve à Toulouse, en l'église Jésus, au sud de Jésus, avec un J ou un G, hein, située au 22 bis rue des Fleurs. Les vitraux sont l'œuvre de Louis-Victor Gesta et les cartons de ses vitraux de Bernard Bénézet. Ces créations ouvrent une période de 12 ans, de 1866 à 1878.
La semaine catholique de Toulouse écrira « L'exigence des commanditaires jésuites a porté ses fruits en réunissant un dessinateur hors pair, Bénézet, inspiré d'Ingres, et un peintre verrier, Louis-Victor Gesta, au fait de sa maîtrise artistique et technique. L'église de Jésus rayonne aujourd'hui d'une parure lumineuse qui occupe une place à part dans le ciel des vitraux peints et réalisés au XIXe siècle. »
Ben merci Eric, on a fait la connaissance de quelque chose qui est méconnu effectivement. On va essayer de le faire maintenant, un peu d'histoire.
Il y a beaucoup d'intérêt. Merci, voilà. Bernard, à bientôt.
À la semaine prochaine.
Au revoir.